France Culture.
Le journal est signé Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Quentin, bonsoir à toutes et à tous. Le sommet de l'OTAN, un succès monumental pour les États-Unis, selon Donald Trump. Nous joindrons Marie Mollet à La Haye. En réponse au dérapage constaté sur les premiers mois de l'année, le gouvernement français prévoit 1,7 milliard d'euros d'économies en 2025 sur les dépenses de santé. Nous reviendrons sur les mesures annoncées par la ministre Catherine Vautrin avec Camille Magnard. À l'approche de l'examen de la réforme de l'audiovisuel public à l'Assemblée, un mouvement de grève illimité débute demain à Radio France et lundi à France Télévisions et à l'INA. Explication de Fiona Mogadam. Et puis le mariage de Jeff Bezos à Venise fait débat dans la cité lacustre déjà envahie par les touristes. Quelques 200 VIP doivent arriver en yacht ou jet privé pour participer au somptueux mariage du fondateur d'Amazon. Donald Trump est parti enchanté de La Haye. À l'issue de la réunion des dirigeants de l'OTAN, le président américain qualifie le sommet de fantastique et de grand succès. Les 32 pays de l'Alliance se sont engagés, comme il l'exigeait, à consacrer au moins 5% de leur PIB à leurs dépenses de sécurité, Marie Mollet.
Oui, Donald Trump était venu à La Haye pour cela, revendiquer à grand bruit une victoire diplomatique et personnelle, celle d'avoir poussé les pays alliés à dépenser beaucoup plus pour leur défense et leur sécurité, ce qu'il appelait les mauvais payeurs. Alors à la sortie du sommet, déclaration triomphante. C'est un succès monumental pour les États-Unis, parce qu'on dépensait beaucoup plus que notre juste part. C'était injuste. C'est quelque chose que personne ne pensait possible. Et ils m'ont dit, vous l'avez fait, monsieur, vous l'avez fait. Et oui, je l'ai fait. Il y a les dépenses et puis il y a le volet russe qui était le plus épineux de ce sommet du fait de l'indulgence de Donald Trump vis-à-vis du Kremlin. Finalement, la déclaration commune qualifie la Russie de menace à long terme, réaffirme un soutien durable à l'Ukraine. Le rendez-vous entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump a bien eu lieu tout à l'heure. La rencontre était bonne, a dit le président américain. L'engagement vis-à-vis de l'Ukraine est à minima, mais au moins la chorégraphie de la journée s'est déroulée comme prévu, sans faute de quart. On s'est mis d'accord, maintenant le plus dur reste à faire, assure une source diplomatique française, notamment sur le volet industrie européenne.
Marie Mollet, à La Haye, Emmanuel Macron rentré à Paris reçoit ce soir le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi, pour faire le point sur l'état du programme nucléaire iranien après les frappes israéliennes et américaines. Le ministère iranien des Affaires étrangères reconnaît aujourd'hui que les installations nucléaires du pays ont été considérablement endommagées par les bombardements. Au deuxième jour du cessez-le-feu entre Israël et l'Iran, les Israéliens soufflent un peu, pas d'alerte ni de missiles. Les restrictions imposées par l'armée israélienne ont été levées et depuis ce matin, les écoles sont de nouveau ouvertes, les entreprises aussi, les rassemblements peuvent avoir lieu. C'est un soulagement pour les habitants de Tel Aviv, même si sur le fond, rien n'est réglé, Farida Noir.
Il est heureux, le petit Aaron, de retrouver ses habitudes.
Oui, moi aussi, je suis contente. On n'est pas du tout sorti de la maison.
Yéla a emmené son petit bébé dans la salle de jeu où il passait ses après-midi avant que la guerre éclate.
Ça a perturbé toutes nos routines. On se levait 3 fois par nuit à cause des alertes et ne pas sortir de la maison, c'était vraiment très difficile. Ne pas voir d'autres enfants, c'était dur pour lui et pour moi.
Pendant les 12 jours du conflit, Tel Aviv n'était pas désertée, mais la ville vivait au ralenti. Aujourd'hui, tout a rouvert. Mike gère une boutique de vêtements de luxe et il est en colère, car pendant cette guerre, il a perdu de l'argent et le plan d'indemnisation présenté par le gouvernement pour aider les entreprises impactées par les restrictions n'est pas suffisant.
Le maximum que le gouvernement va nous donner, c'est 10 000 shekels. Moi, je me fais ça en une heure. C'est rien. Le gouvernement n'aide pas.
Sur la plage de Tel Aviv, Miri est venu prendre sa dose de soleil et a ressorti son transat. Il faut aussi maintenant reprendre un autre combat, dit la retraitée, celui des otages toujours détenus à Gaza.
Il faut vraiment que ça reste une priorité maintenant que c'est un peu terminé avec l'Iran. Il faut les libérer maintenant.
Les familles des otages appellent ainsi le gouvernement à profiter de l'opportunité de cesser le feu pour les libérer.
Par ailleurs, le Premier ministre Benjamin Netanyahou parle d'une journée très difficile pour le peuple israélien. 7 soldats sont morts hier alors qu'ils étaient en opération à Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza. Selon l'armée israélienne, un engin explosif a été fixé à leur véhicule blindé qui a pris feu. Venise est en émoi. De nombreux couples viennent se marier dans la cité lacustre, s'offrant une cérémonie symbolique sur une gondole ou une fête dans un palais historique. Mais là, le mariage qui se prépare est d'une autre dimension. C'est le patron d'Amazon, Jeff Bezos, qui vient épouser la journaliste Lauren Sanchez. Et parmi les quelques 200 invités attendus à partir de demain et pour 3 jours, il y aura Bill Gates, Mick Jagger ou encore Ivanka Trump, la fille du président américain. Un collectif multiplie donc les manifestations contre cette fête jugée particulièrement vraiment ostentatoire. Le reportage de Bruno Duvic.
Où sont les yachts? Combien de jets arrivés à l'aéroport? Le jeu ne fait pas rire le collectif No Space for Bezos. À chaque jour, son action. Ce matin, un sit-in contre l'expulsion d'une habitante d'un des rares quartiers populaires de la cité, avec vue sur l'un des navires de luxe déjà amarré. Il y a un lien, selon Chiara, Venise perd son âme.
On a une conception de la ville maintenant comme si c'est une grosse salle à événements qu'on peut juste privatiser pour ce qu'on a envie de faire, pour notre énorme fête qui... De méga élites mondiaux. La ville peut accueillir ces personnes et expulser les personnes plus fragiles.
La fête se déroulera dans trois lieux différents. Une partie de la flotte de bateaux-taxis de la ville est réservée. Le profil de Jeff Bezos, soutien de Trump, suscite aussi la colère du collectif. Mais alors que deux tiers des habitants vivent du tourisme, pas question pour l'adjoint au maire en charge de ce dossier de cautionner les protestations.
Les personnes qui aujourd'hui protestent,
ceux qui manifestent sont une centaine dans toute la ville. C'est une très faible proportion des habitants. Ce sont eux qui utilisent la ville pour avoir une visibilité internationale. Ils abîment la réputation de Venise.
La préfecture a demandé aux organisateurs de renoncer à l'un des lieux de la fête. Il était trop difficile d'y assurer la sécurité de ce Gotha largement américain.
Bruno Duvic à Venise. C'est peut-être la secrétaire d'État italienne à la culture qui a eu les mots les plus justes pour évoquer la disparition de Léa Massari en parlant d'une actrice au magnétisme irrésistible et au talent fulgurant. La comédienne s'était hier, lundi, à Rome, à l'âge de 91 ans, et ses obsèques ont eu lieu hier. Bonsoir Mathieu Laurent.
Bonsoir Aurélie.
Léa Massari aura marqué le cinéma des Trente Glorieuses et séduit les plus grands cinéastes avant de s'effacer il y a 35 ans.
Issue d'une famille bourgeoise, elle aura une enfance nomade en France, en Suisse, en Espagne. Nomade et néanmoins confortable sans jamais l'oublier. En témoigne cet extrait d'un entretien donné à la radio-télé suisse romande en 1977.
Il faut se souvenir, en tout cas, que quand j'étais jeune, même maintenant, j'aurais toujours une assiette de soupe, qu'on dise chez nous un piatto di minestra. Et c'est très important, ça. Tandis qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent, qui ont des enfants, qui travaillent, qui bouffent, qui mangent seulement sur ce métier-là. Il ne faut pas oublier.
Tout commence à l'écran par une disparition, celle de son personnage, Anna, dans l'Aventura de Michelangelo Antonioni, aux côtés de Monica Vitti. Humble, pudique, à l'aise dans le drame, elle séduit les grands Italiens, Dino Risi. Se souvenir de Une vie difficile, elle y partage l'affiche avec Alberto Sordi. Prendre la mesure de sa troublante justesse dans Le Christ s'est arrêté à Eboli, brûlot historique au temps du fascisme. Signé Francesco Rossi. Puis ce fut le temps des années françaises. On la découvre grâce à Alain Cavalier dans L'Insoumis avec Alain Delon. Bien d'autres succomberont à son talent. Michel Deville, La Femme en Bleu, Henri Verneuil, Peur sur la ville, Chantal Akerman, Les Rendez-vous d'Anna, Le Souffle au cœur, Louis Malle, Son de l'inceste et à l'évidence, Claude Sautet et Les Choses de la vie et Michel Piccoli.
Écoute Pierre, j'ai eu tort de parler de l'île de Ré. Les années passent, la mer est verte. Tu as ta vie, moi j'ai la mienne. Tout va bien.
Elle dira du film, c'est le meilleur souvenir de ma vie humainement et professionnellement. Et pourtant, il y en eut des films majeurs. Léa Massari aura brillé aux côtés, mais jamais dans l'ombre de vedettes avides de couvertures glacées. Elle s'est retirée en Sardaigne, où elle a laissé se perdre à l'horizon. Un regard félin et nous priver de son envoûtante diction, portée par une voix délicieusement rauque.
Merci Mathieu Laurent. Une grève illimitée débute demain à Radio France contre le projet porté par la ministre de la Culture, Rachida Dati. Un projet de holding qui doit regrouper Radio France, France Télévisions et l'INA. Les autres salariés de l'audiovisuel public sont appelés à rejoindre le mouvement à partir de lundi, jour du début de l'examen de la proposition de loi à l'Assemblée nationale. Fiona Mogadam, vous avez suivi l'Assemblée générale organisée aujourd'hui à Radio France.
Et c'est en musique qu'elle a débuté avec ce symbolique requiem de Mozart interprété par des musiciens de Radio France. Une manière de rappeler que les formations musicales ne sont pas évoquées dans le rapport de Laurence Bloch, l'ancienne directrice des antennes de Radio France, un texte qui défend ce projet de holding contre lequel se mobilisent donc les salariés dès demain, ainsi que contre divers projets à Radio France, comme le rappelle Bertrand Durand de la CGT à Radio France.
Les attaques contre les modes de production internalisés, contre les textes collectifs de journalistes et de musiciens, contre ICI et les grilles de rentrée d'ICI, affaiblissent la radio de service public. Elle sera d'autant plus faible dans la holding si le projet passe à l'Assemblée nationale. Et évidemment, nous souhaitons, nous, que les députés s'opposeront à ce projet.
Si à Radio France, les craintes s'articulent autour de la survie de la radio, à France Télévisions, les inquiétudes sont plus modérées. Pour autant, le SNJ, le syndicat des journalistes, s'attend à une mobilisation importante, notamment dans les antennes de France 3, qui fusionnerait avec ici les locales de Radio France pour constituer une filiale unique, indépendamment de Radio France et France Télévisions. Une fusion qui commence d'ores et déjà à se préparer. Antoine Chusville est délégué syndical central au SNJ de France Télévisions.
Au mois de janvier, les journalistes qui travaillent aujourd'hui pour les reportages nationaux de France 3 ne travailleraient plus pour France 3 et ce serait des reprises des journaux de France Info. Donc on est en plein dans la mutualisation. Il y aura moins de reportages, c'est un recul pour nos rédactions et pour l'offre d'information qu'on propose au public.
Un appauvrissement de l'information que craint donc l'ensemble de l'audiovisuel public. Alina, c'est pour le futur de la mémoire de l'audiovisuel public que les salariés s'inquiètent. Lina, qui n'est pas non plus mentionnée dans le rapport de Laurence Bloch.
Un rapport qui a été présenté la semaine dernière aux parlementaires. François Bayrou doit présenter les grandes lignes de son projet de budget 2026 avant le 14 juillet et les ministères cherchent les milliards d'économies et de coupes dans les dépenses publiques qui pourraient être annoncées pour l'an prochain. Catherine Vautrin, elle, prend les devants. Devant la commission des finances de l'Assemblée nationale, la ministre de la Santé et du Travail a présenté aujourd'hui un plan d'économie qui va s'appliquer dès cette année, Camille Magnard.
Tout cela fait suite à l'alerte lancée la semaine dernière par le comité d'experts sur les dépenses de l'assurance maladie qui pointait un dérapage d'1,3 milliard d'ici à la fin de l'année. Catherine Vautrin a donc en quelques jours cherché comment redresser la trajectoire budgétaire et elle annonce aujourd'hui 1,7 milliard d'économies supplémentaires tout de suite applicables. Exit les hausses de rémunération promises aux masseurs-kinésithérapeutes et aux médecins. Elles devaient s'appliquer au 1er juillet. Elles sont repoussées à l'an prochain. Des économies aussi en pharmacie avec une poursuite de la baisse des prix des dispositifs médicaux et des médicaments contre l'avis de l'industrie pharmaceutique. Et puis d'autres mesures listées tout à l'heure devant les députés par la ministre.
Par exemple, la lutte contre le gaspillage des pansements. Les premières délivrances sont désormais limitées à 7 jours afin de pouvoir être renouvelées selon les besoins des patients, ce qui évite les énormes cartons qui ne sont pas utilisés et qui ne peuvent pas être repris. C'est la responsabilisation des assurés sur le transport sanitaire. Si un patient refuse le transport partagé alors que son état de santé le permet, il faudra qu'il puisse avancer les frais de transport avant de bénéficier a posteriori du remboursement. La présentation systématique de la carte vitale en pharmacie pour bénéficier du tiers payant afin de lutter contre la fraude.
Des mesures de l'ordre du symbolique selon Catherine Vautrin elle-même, mais qui complètent des économies chiffrées à 100 millions d'euros sur les indemnités journalières liées à des arrêts de travail. À ce propos, la ministre juge très intéressantes les propositions faites hier par l'assurance maladie, parmi lesquelles une limitation de la durée des arrêts de travail qui pourraient être prescrits. Tout ça, en tout cas, laisse augurer d'un budget 2026 austère pour les assurés sociaux. Selon Catherine Vautrin, c'est le prix à payer pour que la Sécu puisse fêter son centenaire en 2045 sans avoir été sacrifiée d'ici là pour des raisons financières.
Camille Magnard, le civisme a-t-il disparu au fil des générations ? Oui, ont répondu les élus réunis ce matin au siège de l'Association des maires de France pour les premières assises du civisme. Études IFOP à l'appui, ils ont constaté le recul de la politesse et du respect des autorités ou encore l'augmentation des insultes dans l'espace public. Bonsoir Mathilde Cariou.
Bonsoir Aurélie.
Alors quand aurait commencé cette décivilisation ? L'étude ne répond pas à cette question, mais de nombreux élus pointent du doigt la génération des 68 ans.
À commencer par Bruno Retailleau, premier invité à la tribune, qui donne le ton de cette réunion.
Je le dis, je le répète, même si ça peut choquer la bien-pensance, l'ensauvagement nous vient en réalité d'une société 68-arde qui a déconstruit patiemment, méticuleusement tous les repères et tous les cadres.
Le respect, la hiérarchie, l'autorité, tout ça n'existe plus, affirme le ministre de l'Intérieur. Sondage IFOP à l'appui, 60% des Français estiment que les jeunes nés après 2000 sont de moins en moins civilisés.
Et c'est cette société-là dont on nous a vanté le progressisme qui a enfanté une fabrique de barbares.
Approbation dans l'Assemblée composée de personnalités de droite, David Lisnard, Édouard Philippe, Sarah El Haïry, mais aussi Karim Bouamran, le maire socialiste de Saint-Ouen, qui constate un désintérêt des jeunes pour les symboles.
C'est ringard de dire « vive le drapeau », c'est ringard de dire « on respecte la fonction », c'est ringard de chanter la Marseillaise.
Alors pour remettre tout ça à la mode, l'AMF promeut le passeport civique, un outil déjà en place dans 500 communes françaises. Au programme participation obligatoire des élèves aux commémorations, apprentissage de la Marseillaise à l'école. Maxence de Rugy, le maire LR de Talmont-Saint-Hilaire, est très fier de montrer ce que ça donne chez lui en Vendée.
C'est un moment très fort, très émouvant. Le civisme, c'est un acte de la volonté. C'est pas une injonction à ne pas faire, c'est une invitation à faire. C'est la pédagogie du geste qui se répète, qui se transmet. Et cette pédagogie du geste, ensuite, elle vient rentrer dans le cœur.
Car on n'est pas français par le sol, ni par le sang, mais par passion, conclut Bruno Retailleau, applaudi par une assemblée convaincue, et qu'il faut redonner aux jeunes la fibre, non seulement civique, mais surtout patriotique.
Mathilde Cariou. Le dossier du 18h est consacré ce soir à l'exceptionnelle restauration d'une œuvre majeure du 19e siècle au musée d'Orsay, la restauration en public du tableau de Gustave Courbet, un enterrement à Ornon, qui représente une cérémonie funéraire à la lisière du village natal du grand peintre réaliste. Cette œuvre monumentale mesure plus de 3 mètres de haut et près de 7 mètres de large. Bonsoir Benoît Grossin.
Bonsoir Aurélie, bonsoir à toutes et à tous.
Depuis le début du mois, des visites commentées sont organisées tous les jeudis matins. Ça se passe au sein même du musée, mais dans un espace clos, Benoît.
Au rez-de-chaussée, dans l'espace réservé aux différents tableaux de Courbet, on peut voir d'assez près déjà les restaurateurs à l'œuvre. Derrière les baies vitrées de la palissade, dressées pour isoler le chantier et qui suscitent la curiosité du public.
Niveau taille, tu vois la différence ?
La différence est énorme.
Ils doivent certainement mettre des produits.
À l'image d'Aurélia et de Déborah, venues de Bruxelles et de Clermont-Ferrand.
On venait pour l'exposition L'Arrêt dans la rue et en fait, du coup, ça nous a interpellé de voir le tableau en train d'être restauré. Ouais. Je trouve que c'est une très bonne idée d'ailleurs de montrer le travail de l'ombre. Donc les restaurateurs qui généralement sont plutôt dans les réserves. Là, c'est une toile magnifique en plus, donc c'est vraiment très impressionnant.
Très belle surprise, comme disait Aurélia, on n'a pas l'habitude de voir aussi le avant-après pendant le travail des restaurateurs. C'est une manière de mettre en valeur des métiers qu'on n'a pas l'habitude de voir en live, tout simplement.
Et à condition de s'être inscrit à l'avance sur le site internet du musée d'Orsay, il est possible par groupe de 12 personnes de franchir la palissade pour une visite guidée.
Bonjour à tous, je vais vous préparer un petit PowerPoint pour vous expliquer un peu la genèse de ce tableau. Et puis après, on va s'approcher pour voir les tableaux en vrai.
Pendant une demi-heure, la responsable de la restauration de la couche picturale, Cinzia Pasquali, raconte l'histoire et les fragilités de l'œuvre.
Ça, c'est une photo à lumière rasante qui met en exergue l'état de la toile. Le châssis qui ne la maintient plus en tension. Et donc, vous voyez, il fait toutes ces déformations. Et donc, c'est une chose qu'il ne faut pas avoir, cette mauvaise tension de la toile, pour empêcher la dégradation de la couche picturale. On va s'approcher maintenant du tableau.
Cinzia Pasquali explique aussi en quoi les multiples couches de vernis qui assombrissent le tableau représentent aussi une menace pour sa préservation.
En fait, les craquelures, vous voyez, c'est les craquelures de la couche de vernis, c'est pas les craquelures de la peinture. Et donc, c'est ce qui est aussi néfaste, parce qu'une fois qu'il craque le vernis, son mouvement, il s'est transmis à la peinture et peut provoquer aussi des chutes de couches picturales.
Et le public découvre l'intervention en direct sur la toile du restaurateur Roberto Merlo sur les premières couches de vernis.
Vous voyez, la première étape, c'est la pose de ce gel, un gel de solvant. On retire les couches les plus superficielles, qui sont de nature synthétique, sans pénétrer dans les couches sous-jacentes et donc dans la peinture. Et vous voyez, au moment du retrait du gel, j'utilise une lampe ultraviolette qui me permet de voir les résidus de ce vernis que je dois retirer. C'est un travail très minutieux, très long. Vous voyez, depuis ce matin, j'ai fait que cette portion, elle doit faire 50 par 50 cm. Et vous voyez que les couleurs changent énormément avec ce premier niveau de nettoyage, parce que ces premières couches de vernis, ce sont celles le plus en surface, sujet à la poussière, à l'altération de la lumière. Donc on voit déjà un changement incroyable.
Et après cette phase de nettoyage, jusqu'à la fin de l'été, Benoît, l'immense toile sera déposée de son châssis.
Sachant que le format du tableau a été, à une époque, réduit, le dépliage des bordures permettra alors de dévoiler des parties cachées. Cette étape du chantier est très attendue par Anne Robbins, conservatrice peinture du musée d'Orsay chargée des restaurations.
D'abord, on va découvrir de la surface peinte qui aujourd'hui est occultée. Donc déjà, c'est absolument passionnant. Après, il y aura un travail d'évaluation de l'état de la couche picturale sur ces bordures et puis de décision quant à les montrer, à les déplier ou au contraire à les laisser telles quelles. Ce travail de consolidation de la toile, c'est la deuxième grande étape. Et puis ensuite interviendra à la fin du projet une étape de réintégration de l'œuvre et de retouche. Et ceci nous menant vraisemblablement au printemps 2026.
Et jusqu'à la fin du chantier, les visiteurs au musée d'Orsay pourront admirer les restaurateurs à l'œuvre pour redonner tout son éclat à la toile de Courbet.
Merci Benoît Grossin. Votre reportage complet est en ligne sur le site de France Culture dans la rubrique L'Info Culturelle. 57 départements sont ce soir en vigilance orange aux orages, avec pour conséquence des parcs et jardins fermés, des plages interdites d'accès, un trafic ferroviaire parfois interrompu. Demain jeudi, encore quelques orages le matin dans le nord-est, des éclaircies l'après-midi et même un grand soleil près de la Méditerranée. Il fera entre 14 et 20 degrés au petit matin, l'après-midi 21 à 26 sur la moitié nord-ouest, mais 30 à 35 dans les régions méditerranéennes.